Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 3, chapitre 5. Fête de tous les saints, les thèses, leur force, modération, providence, lettre à Albert, insouciance des évêques, dissémination des thèses. Les paroles de Luther avaient produit peu d'effet. Tetzel, sans se troubler, continuait son commerce et ses discours impies. Luther se résignera-t-il à ses criants abus et gardera-t-il le silence? Pasteur, il a vivement exhorté ceux qui avaient recours à son ministère. Prédicateur, il a fait retentir du haut de la chaire une voix d'avertissement. Il lui reste encore à parler comme théologien. Il lui reste à s'adresser non plus à quelques âmes dans le confessionnal, non plus à l'assemblée des fidèles de Wittenberg dans le temple, mais à tous ceux qui sont, comme lui, docteurs de la parole de Dieu. Sa résolution est prise. Ce n'est pas l'Église qu'il pense attaquer, ce n'est pas le pape qu'il va mettre en cause. Au contraire, c'est son respect pour le pape qui ne lui permet pas de se taire plus longtemps sur des prétentions par lesquelles on l'offense. Il faut prendre le parti du pape contre des hommes audacieux qui osent mêler son nom vénérable à leur honteux trafic. Bien loin de penser à une révolution qui renverse la primauté de Rome, Luther croit avoir le pape et la catholicité pour allier contre des moines impudents. La fête de tous les saints était un jour très important pour Wittenberg et surtout pour l'Église que l'électeur y avait construite et qu'il avait remplie de reliques. On sortait alors ces reliques, ornées d'argent, d'or et de pierres précieuses, et on les étalait aux yeux du peuple étonné et ébloui de tant de magnificence. Quiconque visitait ce jour-là cette église et s'y confessait obtenait une riche indulgence. Aussi, dans ce grand jour, les pèlerins arrivaient-ils en foule à Wittenberg. Luther, déjà décidé, s'achemine courageusement le 31 octobre 1517 vers l'église où se portait la foule superstitieuse des pèlerins et affiche à la porte de ce temple 95 thèses ou propositions contre la doctrine des indulgences. Ni l'électeur, ni Staupitz, ni Spalatin, ni aucun de ses amis, même les plus intimes, n'avait été instruit de cette démarche. Luther y déclare, dans une espèce de préambule, qu'il a écrit ses thèses avec le désir express d'exposer la vérité au grand jour. Il s'annonce prêt à les défendre le lendemain, à l'université même, envers et contre tous. L'attention qu'elles excitent est grande. On les lit, on se les répète. Bientôt, les pèlerins, l'université, toute la ville sont en rumeur. Voici quelques-unes de ces propositions écrites de la plume du moine et affichées à la porte de l'église de Wittenberg. Numéro 1. Lorsque notre Maître et Seigneur Jésus-Christ dit « Repentez-vous », il veut que toute la vie de ses fidèles sur la terre soit une constante et continuelle repentance. Numéro 2. Cette parole ne peut être entendue du sacrement de la pénitence, c'est-à-dire de la confession et de la satisfaction, ainsi qu'il est administré par le prêtre. Numéro 3. Cependant, le Seigneur ne veut pas seulement parler ici de la repentance intérieure. La repentance intérieure est nulle si elle ne produit pas extérieurement toutes sortes de mortifications de la chair. Numéro 4. La repentance et la douleur, c'est-à-dire la vraie pénitence, durent aussi longtemps qu'un homme se déplaît à lui-même, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il passe de cette vie dans la vie éternelle. Numéro 5. Le pape ne peut ni ne veut remettre aucune autre peine que celle qu'il a imposée selon son bon plaisir ou conformément aux canons, c'est-à-dire aux ordonnances papales. Numéro 6. Le pape ne peut remettre aucune condamnation, mais seulement déclarer et confirmer la rémission que Dieu lui-même en a faite, à moins qu'il ne le fasse dans les cas qui lui appartiennent. S'il fait autrement, la condamnation reste entièrement la même. Numéro 9. Les lois de la pénitence ecclésiastique ne doivent être imposées qu'aux vivants et ne regardent nullement les morts. Numéro 21. Les commissaires d'indulgence se trompent quand ils disent que, par l'indulgence du pape, l'homme est délivré de toute punition et sauvé. Numéro 25. le même pouvoir que le pape a sur le purgatoire dans toute l'Église. Chaque évêque l'a en particulier dans son diocèse et chaque curé dans sa paroisse. Numéro 27. Cela prêche des folies humaines qui prétendent qu'au moment même où l'argent sonne dans le coffre-fort, l'âme s'envole du purgatoire. Numéro 28. Ceci est sûr, savoir qu'aussitôt que l'argent sonne, l'avarice et l'amour du gain arrivent, croissent et se multiplient. Mais le secours et les prières de l'Église ne dépendent que de la volonté et du bon plaisir de Dieu. Numéro 32. Ceux qui s'imaginent être sûrs de leur salut par les indulgences iront au diable avec ceux qui le leur enseignent. Numéro 35. Ils enseignent des doctrines antichrétiennes, ceux qui prétendent que pour délivrer une âme du purgatoire ou pour acheter une indulgence, il n'est besoin ni de tristesse ni de repentir. Numéro 36. Chaque chrétien qui éprouve une vraie repentance pour ses péchés a une entière rémission de la peine et de la faute sans qu'il ait besoin pour cela d'indulgence. Numéro 37. Chaque vrai chrétien, mort ou vivant, a part à tous les biens de Christ ou de l'Église par le don de Dieu et sans lettre d'indulgence. Numéro 38. Cependant, il ne faut pas mépriser la distribution et le pardon du pape, car son pardon est une déclaration du pardon de Dieu. Numéro 40. La repentance et la douleur véritable cherchent et aiment la punition, mais la douceur de l'indulgence délie de la punition et fait que l'on conçoit de la haine contre elle. Numéro 42. Il faut apprendre aux chrétiens que le pape ne pense ni ne veut que l'on compare en rien l'action d'acheter des indulgences à une œuvre quelconque de miséricorde. Numéro 43. Il faut apprendre aux chrétiens que celui qui donne aux pauvres ou qui prête aux nécessiteux fait mieux que celui qui achète une indulgence. Numéro 44. Car l'œuvre de la charité fait croître la charité et rend l'homme plus pieux, tandis que l'indulgence ne le rend pas meilleur, mais seulement plus assuré en lui-même et mieux à l'abri de la punition. Numéro 45. Il faut apprendre aux chrétiens que celui qui voit son prochain dans le besoin et qui malgré cela achète une indulgence, n'achète pas l'indulgence du pape, mais charge sur lui la colère de Dieu. Numéro 46. Il faut apprendre aux chrétiens que s'ils n'ont pas du superflu, ils sont obligés de garder pour leur maison de quoi se procurer le nécessaire et ne doivent point le prodiguer en indulgence. Numéro 47. Il faut apprendre aux chrétiens qu'acheter une indulgence est une chose libre et non de commandement. Numéro 48. Il faut apprendre aux chrétiens que le pape, ayant plus besoin d'une prière faite avec foi que d'argent, désire la prière plus que l'argent quand il distribue des indulgences. Numéro 49. Il faut apprendre aux chrétiens que l'indulgence du pape est bonne si l'on ne met pas sa confiance en elle, mais qu'il n'y a rien de plus nuisible si elle fait perdre la piété. Numéro 50. Il faut apprendre aux chrétiens que si le pape connaissait les exactions des prédicateurs d'indulgence, il aimerait mieux que la métropole de Saint-Pierre fût brûlée et réduite en cendres que de la voir édifiée avec la peau, la chair et les os de ses brebis. Numéro 51. Il faut apprendre aux chrétiens que le pape, ainsi que c'est son devoir, distribuerait de son propre argent aux pauvres gens que les prédicateurs d'indulgence dépouillent maintenant de leurs derniers sous, dût-il même pour cela vendre la métropole de Saint-Pierre. Numéro 52. Espérer être sauvé par les indulgences est une espérance de mensonge et de néant, quand même le commissaire d'indulgence, et que dis-je, le pape lui-même, voudrait, pour l'assurer, mettre son âme en gage. Numéro 53. Ils sont les ennemis du pape et de Jésus-Christ, ceux qui, à cause de la prédication des indulgences, défendent de prêcher la parole de Dieu. Numéro 55. Le pape ne peut avoir d'autre pensée que celle-ci. Si l'on célèbre l'indulgence, qui est moindre, avec une cloche, une pompe et une cérémonie, il faut, et à bien plus forte raison, honorer et célébrer l'Évangile qui est plus grand avec sans cloche, sans pompe et sans cérémonie. Numéro 62. Le véritable et précieux trésor de l'Église est le Saint Évangile de la gloire et de la grâce de Dieu. Numéro 65. Les trésors de l'Évangile sont des filets dans lesquels il est arrivé de pêcher autrefois des gens riches et à leur aise. Numéro 66. Mais les trésors de l'indulgence sont des filets avec lesquels on pêche à cette heure les richesses des gens. Numéro 67. Il est du devoir des évêques et des pasteurs de recevoir avec tout respect les commissaires des indulgences apostoliques. Numéro 68. Mais il est bien plus encore de leur devoir de s'assurer des yeux et des oreilles que les dix commissaires ne prêchent pas les rêves de leur propre imagination au lieu des ordres du pape. Numéro 71. Que celui qui parle contre l'indulgence du pape soit maudit. Numéro 72. Mais que celui qui parle contre les paroles folles et imprudentes des prédicateurs d'indulgence soit béni. Numéro 76. L'indulgence du pape ne peut pas ôter le moindre péché journalier pour ce qui regarde la culpe ou l'offense. Numéro 79. Dire que la croix ornée des armes du pape est aussi puissante que la croix de Christ est un blasphème. Numéro 80. Les évêques, pasteurs et théologiens qui permettent que l'on dise de telles choses au peuple devront en rendre compte. Numéro 81. Cette prédication déhontée, ces éloges impudents des indulgences font qu'il est difficile aux savants de défendre la dignité et l'honneur du pape contre les calomnies des prédicateurs et les questions subtiles et rusées des gens du peuple. Numéro 86. Pourquoi, disait-il, le pape ne bâtit-il pas la métropole de Saint-Pierre de son propre argent plutôt que de celui des chrétiens pauvres, lui dont la fortune est plus grande que celle du plus riche Crassus ? Numéro 92. Puissions-nous donc être débarrassés de tous les prédicateurs qui disent à l'Église de Christ « Paix, paix, et il n'y a point de paix ». Numéro 94. Il faut exhorter les chrétiens à s'appliquer à suivre Christ, leur chef, à travers les croix, la mort et l'enfer. Numéro 95. Car il vaut mieux qu'ils entrent par beaucoup de tribulations dans le royaume des cieux que d'acquérir une sécurité charnelle par les consolations d'une fausse paix. Voilà donc le commencement de l'œuvre. Les germes de la Réformation étaient renfermés dans ces thèses de Luther. Les abus des indulgences y étaient attaqués, et c'est ce qui frappa le plus. Mais sous ces attaques se trouvait, en outre, un principe qui, quoiqu'attirant beaucoup moins l'attention de la multitude, devait un jour renverser l'édifice de la papauté. La doctrine évangélique d'une rémission libre et gratuite des péchés y était pour la première fois publiquement professée. Maintenant, l'œuvre devait grandir. En effet, il était évident que quiconque aurait cette foi à la rémission des péchés annoncée par le docteur de Wittenberg, que quiconque aurait cette repentance, cette conversion et cette sanctification dont il pressait la nécessité, ne se soucierait plus des ordonnances humaines, échapperait aux langes et aux liens de Rome et acquérait la liberté des enfants de Dieu. Toutes les erreurs devaient tomber devant cette vérité. C'est par elle que la lumière avait commencé à entrer dans l'âme de Luther, c'était de même par elle que la lumière devait se répandre dans l'Église. Une connaissance claire de cette vérité était ce qui avait manqué aux précédents réformateurs. De là la stérilité de leurs efforts. Luther reconnut lui-même plus tard qu'en proclamant la justification par la foi, il avait mis la hache à la racine de l'arbre. « C'est la doctrine que nous attaquons dans les sectateurs de la papauté, » dit-il. Huss et Wycliffe n'ont attaqué que leur vie, mais en attaquant leur doctrine, nous saisissons loi par la gorge. Tout dépend de la parole que le pape nous a ôtée et a falsifiée. J'ai vaincu le pape parce que ma doctrine est selon Dieu et que la sienne est selon le diable. Nous avons aussi oublié de nos jours cette doctrine capitale de la justification par la foi, quoiqu'en un sens opposé à celui de nos pères. Du temps de Luther, a dit l'un de nos contemporains, la rémission des péchés coûtait au moins de l'argent. Mais de nos jours, chacun se l'administre gratis à lui-même. Ces deux travers se ressemblent fort. Il y a même peut-être plus d'oubli de Dieu dans le nôtre que dans celui du XVIe siècle. Le principe de la justification par la grâce de Dieu, qui tira l'Église le temps de ténèbres à l'époque de la Réformation, peut seul aussi renouveler notre génération, mettre fin à ses doutes et à ses oscillations, détruire l'égoïsme qui la ronge, établir la moralité et la justice parmi les peuples, en un mot, rattacher à Dieu le monde qui s'en est séparé. Mais si les thèses de Luther étaient fortes de la force de la vérité qui y était proclamée, elles ne l'étaient pas moins de la foi de celui qui s'en déclarait le défenseur. Il avait tiré avec courage le glaive de la parole. Il avait fait cet acte dans la foi, à la puissance de la vérité. Il avait senti qu'en s'appuyant sur les promesses de Dieu, on pouvait hasarder quelque chose selon le langage du monde. « Que celui qui veut commencer quelque chose de bon, dit-il en parlant de cette attaque hardie, l'entreprenne en se confiant dans la bonté de cette chose et non pas qu'il s'en garde dans le secours et la consolation des hommes. De plus, qu'il ne craigne pas les hommes, ni le monde tout entier, car cette parole ne mentira pas. Il est bon de se confier dans le Seigneur, et certes, pas un de ceux qui se confient en toi ne sera confus. Mais que celui qui ne veut, ni ne peut hasarder quelque chose en se confiant en Dieu, se garde bien de rien entreprendre. » Sans doute, Luther, après avoir affiché ses thèses à la porte de l'église de tous les saints, se retira dans sa tranquille cellule, rempli de cette paix et de cette joie que donne une action faite au nom du Seigneur et pour la vérité éternelle. Quelle que soit la hardiesse qui règne dans ses thèses, on y retrouve encore le moine qui refuse d'admettre un seul doute sur l'autorité du siège de Rome. Mais en attaquant la doctrine des indulgences, Luther s'en était pris sans s'en apercevoir à plusieurs erreurs dont la découverte ne pouvait être agréable au pape vu qu'elle devait conduire, tôt ou tard, à mettre en question sa suprématie. Luther ne vit pas alors si loin, mais il sentit combien était hardi le pas qu'il venait de faire, et il crut en conséquence devoir en tempérer l'audace autant que le comportait le respect dû à la vérité. Il ne présenta donc ses thèses que comme des propositions douteuses sur lesquelles il sollicitait les lumières des savants, et il y joignit, se conformant en cela à un usage établi, une solennelle protestation par laquelle il déclarait qu'il ne voulait rien dire ou affirmer qui ne fût fondé sur la Sainte Écriture, les pères de l'Église et les droits et décrétales du siège de Rome. Souvent, dans la suite, Luther, à la vue des conséquences immenses et inattendues de cette courageuse attaque, s'étonna lui-même et ne put comprendre qu'il eût osé la faire. C'est qu'une main invisible et plus puissante que la sienne tenait les fils conducteurs et poussait le héros de la vérité dans un chemin qu'elle lui cachait encore et devant les difficultés duquel il eût reculé peut-être s'il les avait connues et s'il se fût avancé seul et de lui-même. « Je suis, dit-il, entré dans cette dispute sans propos arrêté, sans le savoir ni le vouloir. J'ai été pris entièrement au dépourvu. J'en prends à témoin le Dieu qui sonde tous les cœurs. » Luther avait appris à connaître la source de ses abus. On lui avait apporté un livret orné des armes de l'archevêque de Mayence et de Magdebourg qui contenait les règles à suivre dans le débit des indulgences. C'était donc ce jeune prélat, ce prince élégant, qui avait prescrit ou du moins sanctionné tout ce charlatanisme. Luther ne voit en lui qu'un supérieur qu'il doit craindre et vénérer. Ne voulant point battre l'air au hasard, mais plutôt s'adresser à ceux qui ont charge de gouverner l'Église, il lui envoie une lettre remplie à la fois de franchise et d'humilité. C'est le jour même où il affiche ses thèses que Luther écrit à Albert. « Pardonnez-moi, très révérend Père en Christ et très illustre prince, lui dit-il, si moi qui ne suis que la lie des hommes, j'ai la témérité d'écrire à votre sublime grandeur. Le Seigneur Jésus m'est témoin que, sentant combien je suis petit et méprisable, j'ai longtemps renvoyé de le faire. Que votre Altesse cependant laisse tomber un regard sur un grain de poudre et selon sa douceur épiscopale reçoive gracieusement ma requête. » On transporte, çà et là, dans le pays l'indulgence papale sous le nom de votre grâce. Je ne veux pas tant accuser les clameurs des prédicateurs, je ne les ai pas entendus, que les fausses idées des gens simples et grossiers du peuple qui, en achetant des indulgences, s'imaginent être sûrs de leur salut. Grand Dieu, les âmes confiées à vos soins, très excellent Père, sont instruites non pour la vie, mais pour la mort. Le compte juste et sévère qui vous en sera demandé croît et augmente de jour en jour. Je n'ai pu me taire plus longtemps. Non, l'homme n'est point sauvé par l'œuvre ou par l'office de son évêque. Le juste même est difficilement sauvé, et le chemin qui conduit à la vie est étroit. Pourquoi donc les prédicateurs d'indulgence, par des fables de néant, remplissent-ils le peuple d'une sécurité charnelle? L'indulgence seule, à les entendre, doit être proclamée, doit être exaltée. Et quoi? Le principal et le seul devoir des évêques n'est-il pas d'enseigner au peuple l'évangile et la charité de Jésus-Christ? Jésus-Christ lui-même n'a nulle part ordonné de prêcher l'indulgence, mais il a commandé avec force de prêcher l'évangile. Quelle horreur donc, et quel danger pour un évêque, s'il permet qu'on se taise sur l'évangile et que le bruit des indulgences retentisse seul et sans cesse aux oreilles de son peuple. Très digne Père en Dieu, dont l'instruction des commissaires qui a été publiée sous le nom de votre grâce, sans doute sans votre savoir, il est dit que l'indulgence est le plus précieux trésor, que par elle l'homme est réconcilié avec Dieu et que le repentir n'est pas nécessaire à ceux qui l'achètent. Que puis-je et que dois-je donc faire, très digne évêque, sérénissime prince? Ah, je supplie votre Altesse, par le Seigneur Jésus-Christ, de porter sur cette affaire le regard d'une paternelle vigilance, de faire entièrement disparaître ce livre et d'ordonner aux prédicateurs de tenir au peuple d'autres discours. Si vous ne le faites, craignez de voir un jour s'élever quelque voix qui réfutera ces prédicateurs à la grande honte de votre Altesse sérénissime. Luther envoyait en même temps à l'archevêque ses thèses et l'invitait par post-scriptum à les lire afin de se convaincre du peu de certitude qu'avait la doctrine des indulgences. Ainsi, tout le désir de Luther était que les sentinelles de l'Église se réveillassent et pensassent enfin à faire cesser les maux qui la désolaient. Rien de plus noble et de plus respectueux que cette lettre d'un moine à l'un des plus grands princes de l'Église et de l'Empire. Jamais on agit plus dans l'esprit du précepte de Jésus-Christ « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Ce n'est pas là la marche des révolutionnaires fougueux qui méprisent les dominations et qui blâment les dignités. C'est le cri de la conscience d'un chrétien et d'un prêtre qui porte honneur à tous, mais qui avant tout a la crainte de Dieu. Mais toutes les prières et les supplications étaient inutiles. Le jeune Albert, préoccupé de ses plaisirs et de ses desseins ambitieux, ne fit point de réponse à un appel si solennel. L'évêque de Brandebourg, ordinaire de Luther, homme savant et pieux, auquel il envoya aussi ses thèses, répondit qu'il attaquait le pouvoir de l'Église, qu'il s'attirerait à lui-même beaucoup de tracas et de chagrins, que la chose était au-dessus de ses forces et qu'il lui conseillait fort de demeurer tranquille. Les princes de l'Église fermer l'oreille à la voix de Dieu qui se manifestait d'une manière si énergique et si touchante par l'organe de Luther. Ils ne voulaient point comprendre les signes du temps. Ils étaient frappés de cet aveuglement qui a entraîné déjà la ruine de tant de puissance et de dignité. Ils pensèrent alors tous deux, dit Luther plus tard, que le pape serait beaucoup trop fort pour un misérable mendiant tel que moi. Mais Luther pouvait mieux que les évêques juger de l'effet désastreux des indulgences sur les mœurs et la vie du peuple, car il était en rapport direct avec lui. Il voyait constamment et de près ce que les évêques ne connaissaient que par des rapports infidèles. Si les évêques lui manquèrent, Dieu ne lui manqua pas. Le chef de l'Église, qui siège dans le ciel et à qui seule toute puissance a été donnée sur la terre, avait lui-même préparé le terrain et déposé le grain dans la main de son serviteur. Il donna des ailes à la semence de la vérité et il la répandit en un instant sur toute l'étendue de son Église. Personne ne se présenta le lendemain à l'université pour attaquer les propositions de Luther. Le commerce de Tetzel était trop décrié et trop honteux pour qu'un autre que lui-même ou l'un des siens osât relever le gant. Mais ses thèses étaient destinées à retentir ailleurs que sous les voûtes d'une salle académique. À peine avait-elle cloué à la porte de l'église du château à Wittenberg qu'au faible retentissement de ses coups de marteau succéda en toute l'Allemagne un coup tel qu'il atteignit jusqu'au fondement de la superbe Rome, menaçant d'une ruine soudaine les murs, les portes et les poteaux de la papauté, étourdissant et épouvantant ses héros et réveillant en même temps plusieurs milliers d'hommes du sommeil de l'erreur. Ces thèses se répandirent avec la rapidité de l'éclair. Un mois ne s'était pas encore écoulé, qu'elles étaient déjà à Rome. Dans 15 jours, dit un historien contemporain, elles furent dans toute l'Allemagne, et dans 4 semaines, elles eurent parcouru à peu près toute la chrétienté, comme si les anges même en eussent été les messagers et les eussent portés devant les yeux de tous les hommes. personne ne saurait croire le bruit qu'elles occasionnèrent. Elles furent plus tard traduites en hollandais, en espagnol, et un voyageur les vendit à Jérusalem. Chacun, dit Luther, se plaignait des indulgences, et comme tous les évêques et les docteurs avaient gardé le silence, et que personne n'avait voulu attacher le grelot, le pauvre Luther devint un fameux docteur, parce qu'à la fin, pourtant, disait-on, il en était venu un qui l'avait osé. Mais je n'aimais pas cette gloire, et le chant me paraissait trop haut pour les paroles. Une partie des pèlerins qui étaient accourus de tous les pays à Wittenberg pour la fête de tous les saints rapportèrent chez eux, au lieu d'indulgence, les fameuses thèses du moine Augustin. Ils contribuèrent ainsi à les répandre. Chacun les lisait, les méditait, les commentait. On s'en occupait dans tous les couvents et dans toutes les universités. Tous les moines pieux qui étaient rentrés au cloître pour sauver leur âme, tous les hommes droits et honnêtes, se réjouissaient de cette confession simple et frappante de la vérité et souhaitaient de tout leur cœur que Luther continuât l'œuvre qu'il avait commencée. Enfin, un homme avait eu le courage d'entreprendre cette lutte périlleuse. C'était une réparation accordée à la chrétienté. La conscience publique était satisfaite. La piété voyait dans les thèses un coup porté à toutes les superstitions. La nouvelle théologie saluait en elle la défaite des dogmes scolastiques. Les princes et les magistrats les regardaient comme une barrière élevée contre les envahissements de la puissance ecclésiastique, et la nation se réjouissait de voir un nom si positif opposé par ce moine à l'avidité de la chancellerie romaine. Quand Luther attaqua cette fable, dit au duc Georges de Saxe, un homme très digne de foi, l'un des principaux rivaux du réformateur, Érasme, le monde entier lui applaudit, et il y eut un grand accord. « Je remarque, disait-il encore au cardinal Campeggi, que plus on a des mœurs pures et une piété évangélique, moins aussi l'on est opposé à Luther. Sa vie est louée par ceux-mêmes qui ne peuvent supporter sa foi. Le monde était ennuyé d'une doctrine où se trouvaient tant de fables puériles et d'ordonnances humaines, et il avait soif de cette eau vive, pure et cachée, qui sort des veines des évangélistes et des apôtres. » Le génie de Luther était fait pour accomplir ces choses, et son zèle devait l'enflammer pour une entreprise si belle. »